crucial.
Il est 10h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI, c'est l'heure du journal. Bonjour Jeanne Bartoli.
Et bonjour Juan Gomez, bonjour à tous. Dans ce journal, l'accord de trêve entre le Hamas et les autorités israéliennes trouvé hier soir a-t-il déjà du plomb dans l'aile ? Benjamin Netanyahou accuse ce matin le Hamas de revenir sur certains points de l'accord qui doit entrer en vigueur dimanche. Le Premier ministre israélien affirme que le cabinet de sécurité qui devait valider le texte ce matin ne se réunira pas dans ces conditions. Les détails à suivre. Dans ce journal aussi, les adieux aux Américains de Joe Biden. Dernier discours hier en forme de mise en garde. Il faut respecter les institutions démocratiques, prévient le président sortant. Et puis en Guinée, il n'a toujours pas comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et financières, la CRIEF. L'ancien Premier ministre Ibrahima Kassouri Fofana n'a pas pu être extrait pour participer à une audience qui devait examiner une demande de remise en liberté. Le cabinet de sécurité israélien ne se réunira pas tant qu'il n'aura pas eu la garantie que le Hamas a accepté tous les éléments de l'accord. Déclaration à l'instant de Benjamin Netanyahou après l'officialisation hier soir d'un accord de trêve entre le Hamas et Israël. Un cessez-le-feu qui doit entrer en vigueur dimanche et qui doit être validé avant cela donc par le cabinet de sécurité israélien. Accord en trois phases dont la première prévoit la libération de centaines de prisonniers palestiniens et de 33 otages israéliens retenus à Gaza. Peut-être la fin d'une très longue prise d'otages donc qui a débuté pendant les attaques du 7 octobre 2023 dans les localités israéliennes proches de la bande de Gaza. Nicolas Falaise.
Le 7 octobre 2023, les assaillants palestiniens emmènent 251 otages dans la bande de Gaza. La majorité sont des Israéliens, mais il y a aussi des travailleurs agricoles étrangers, thaïlandais et népalais notamment. Le mois suivant, une trêve d'une semaine permet la libération d'une centaine de ces otages. En échange, Israël libère 240 prisonniers palestiniens. En pleine guerre à Gaza, l'armée israélienne a pu libérer 8 otages en vie. Par erreur, elle a aussi tué 3 otages qui avançaient vers des soldats en agitant un drapeau blanc. À plusieurs reprises, ce sont des dépouilles d'otages retrouvés morts, notamment dans des tunnels qui ont été ramenés en Israël par l'armée. Ces dernières heures, on comptait 98 otages dans la bande de Gaza. 4 d'entre eux y étaient retenus avant le 7 octobre 2023. Sur ces 98 otages, 36 ont été confirmés morts, ce qui ne veut pas dire que tous les autres sont en vie.
Gaza qui continue d'être bombardé par l'armée israélienne. La défense civile du territoire annonce la mort de près de 30 personnes dans des frappes survenues après l'officialisation de cette trêve. Et parmi les nombreuses réactions à l'international, Emmanuel Macron s'est félicité hier de l'accord qui devrait permettre la libération de 2 franco-israéliens retenus à Gaza. L'accord doit être respecté, les otages libérés, les Gazaouis secourus. Une solution politique doit advenir, a déclaré le président français. L'Irak, de son côté, appelle à l'arrivée immédiate de l'aide humanitaire à Gaza. Cet accord qui intervient, et ce n'est pas un hasard, quelques jours avant la cérémonie d'investiture de Donald Trump aux États-Unis. Donald Trump et Joe Biden, qui avaient tous les deux intérêt à parvenir à cette trêve. Hier, le président sortant Joe Biden s'est lui exprimé depuis le bureau ovale, discours d'adieu aux Américains, lors duquel il a défendu son bilan et lancé plusieurs avertissements. À Washington, Guillaume Nodin.
C'est assis à sa table de travail dans le bureau ovale que Joe Biden s'adresse pour la dernière fois aux Américains pour leur rappeler ce qui pour lui constitue l'âme de son pays.
Je sais que croire à l'idée de l'Amérique, c'est respecter les institutions qui dirigent une société libre. La présidence, le Congrès, les tribunaux et une presse libre et indépendante.
Et bien qu'il se sache impopulaire, Joe Biden s'attache une dernière fois à défendre son bilan.
Cela prendra du temps de sentir l'impact de tout ce que nous avons fait ensemble. Mais les graines sont semées et elles grandiront et fleuriront au cours des décennies à venir.
Comme le président Eisenhower dans son discours d'adieu en son temps, Joe Biden met en garde contre les dangers qu'il perçoit, la constitution d'une oligarchie du pouvoir et de l'argent, le poids de ce qu'il appelle le complexe techno-industriel et l'avalanche de fausses informations.
Nous devons faire rendre des comptes aux médias sociaux pour protéger nos enfants, nos familles et notre démocratie de l'abus de pouvoir.
Enfin, avant de remercier ses proches, Joe Biden demande une réforme de la Constitution pour empêcher que le président ne bénéficie d'une immunité dans ses fonctions. C'est précisément ce qu'a obtenu Donald Trump avant de lui succéder. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
RFI, 10 heures passées de 5 minutes. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi le Premier ministre britannique à Kiev pour rencontrer le président Zelensky. Keir Starmer doit signer sur place un partenariat de 100 ans visant à renforcer les liens en matière de sécurité. C'est la première fois que le dirigeant britannique se rend en Ukraine. Le partenariat doit porter sur le renforcement de la collaboration militaire en matière de sécurité maritime et faire de la Grande-Bretagne le partenaire privilégié de l'Ukraine, notamment dans le secteur de l'énergie. C'est ce que précise le cabinet de Keir Starmer. L'Ukraine où Volodymyr Zelensky a de nouveau diffusé des vidéos de soldats nord-coréens capturés dans la région russe de Koursk. Une stratégie de communication en violation de la Convention de Genève qui protège le statut de prisonnier de guerre. Kiev communique fréquemment sur la présence de soldats nord-coréens aux côtés des troupes russes, tout comme la Corée du Sud. Alors pourquoi cette communication? Quels objectifs? Quel est le message qu'il cherche à faire passer? Élément de réponse ce matin avec Nicolas Roca.
Des drones qui abattent des Nord-Coréens exposés, des prisonniers désorientés qui ne savent même pas qu'ils étaient venus combattre en Ukraine. Des images et des informations qui filtrent sur la présence militaire nord-coréenne aux côtés de la Russie sont soigneusement choisies par Kiev, selon Chris Munday, professeur à l'université Tongso de Busan, en Corée du Sud.
Ils diffusent les images qui servent leur récit, que l'Ukraine est une ligne de front face aux dictateurs. Ils insistent sur le fait que les Nord-Coréens sont mal entraînés, que des milliers d'entre eux meurent.
À cela s'ajoute le filtre des renseignements sud-coréens qui aide les Ukrainiens à interroger les prisonniers.
Nous devons aussi garder à l'esprit que ce sont des Sud-Coréens qui les interrogent et ils ont un biais idéologique par rapport à la Corée du Nord. Ils sont convaincus que tous les Nord-Coréens veulent faire défection, ce qui est souvent faux.
Selon le chercheur, en diffusant les visages des soldats nord-coréens pour servir sa communication, Kiev les met en danger.
Kim Jong-un s'attend à ce que ses soldats se suicident. Je parie qu'il va faire d'eux des symboles. Ils vont être vus comme des traîtres.
Une menace qui pèse aussi sur la famille des prisonniers si celle-ci est restée en Corée du Nord.
Nicolas Roca du service international d'RFI. En Guinée, à présent, cela fait bientôt 3 ans que l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana est en détention. Il n'a toujours pas comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et financières, la CRIEF. Il est poursuivi pour des faits de corruption, d'enrichissement illicite, de détournement de deniers publics. Ses avocats réclament son évacuation à l'étranger pour raisons sanitaires. Hier, il était à nouveau question d'extraire l'ancien Premier ministre de la clinique Pasteur où il est alité. Mais l'ancien chef de gouvernement a affirmé ne pas pouvoir se rendre à l'audience. Précision, Mouktar Ba.
L'audience de ce mercredi devait examiner une demande de remise en liberté de Kassori Fofana afin de permettre son transfert vers l'hôpital américain de Paris pour des soins. Demande rejetée par le parquet et le tribunal au motif que le prévenu n'a jamais accepté de comparaître. S'adressant à la cour Ali Touré, le procureur de la CRIEF estime, je cite, « La défense est en train de jouer avec l'intelligence du tribunal en ce sens que leur client refuse catégoriquement de comparaître devant vous. » Pour le procureur, cette requête ne représente rien, parce que celui au nom duquel elle est faite n'a jamais comparu. La Cour a accédé à la demande du parquet et ordonné la clôture des débats. Les réquisitions et les plaidoiries auront lieu lundi prochain. Maître Sidiki Berete, le principal avocat de Kassori Fofana, n'est pas du tout surpris.
La CRIEF est au service de la transition et non de la justice. On a ordonné la clôture des débats, il n'y a jamais eu débat. On a ordonné la plaidoirie réquisition le 20 contre un prévenu qui ne peut pas se tenir debout, qui est mourant. Tous ces décisions signe à le condamner par défaut et à tort, sans procès équitable. Ça fait peur que le peuple guinéen soit bâillonné sans droit à la dignité. C'est même un risque d'être guinéen.
Outre Kassori Fofana, plusieurs autres anciens ministres et hauts cadres du régime d'Alpha Condé sont en détention pour des faits présumés de détournement de deniers publics. Mokhtar Ba Conakry, RFI.
Enfin, l'actualité en France. Le Premier ministre François Bayrou affronte cet après-midi sa première motion de censure soutenue par la France insoumise. Les communistes et les écologistes, peu de risque d'être renversés puisque le Rassemblement national affirme qu'il ne la votera pas. De son côté, le Parti socialiste continue de tenter d'obtenir des concessions du Premier ministre. Dernier geste de François Bayrou, abandonner les 4000 suppressions de postes dans l'éducation nationale, coupure de poste prévu par son prédécesseur Michel Barnier. 10h10 à Paris, vous restez avec nous. Dans un instant, c'est Priorité Santé avec Caroline Paré.